C'est une des scientifiques françaises les plus en vue. Elle s'appelle donc Emmanuelle Charpentier. Son nom ne vous dit encore peut-être rien. Et pourtant, cette biologiste moléculaire a mis au point un mécanisme de défense contre les virus qui permet de bricoler l'ADN à la demande. Son outil révolutionnaire appelé CRISPR-Cas9 intéresse le monde entier pour ses applications potentielles innombrables. Cette virtuose de l'ADN croule déjà sous les prix internationaux les plus importants. Je l'ai rencontrée il y a quelques jours à Paris pour un entretien que je vous propose d'entendre dans quelques minutes. Des empreintes de reptiles réalisées au pochoir, découvertes dans une grotte ornée de la préhistoire. C'est à la une de la science aujourd'hui, Catherine de Coppet. Bonjour.
Bonjour, et c'est une première en archéologie. Jusqu'ici, les empreintes en question avaient été prises pour des mains humaines. La nouvelle pourrait bien révolutionner les connaissances sur l'art rupestre.
Stéphanie Texier réalise cette tête au carré qui a été préparée par Lucie Sarfati et François Mercier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Emmanuelle Charpentier.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous recevoir. Ça fait longtemps qu'on souhaitait vous inviter dans la tête au carré, mais votre venue en France est assez rare, au fond. Vous travaillez beaucoup à l'étranger, en Allemagne en particulier. On va parler de vos travaux majeurs dans le domaine du génie génétique. Vous êtes à l'origine avec l'américaine Jennifer Doudna d'une boîte à outils qui révolutionne la biologie moléculaire et qui porte le nom étrange de CRISPR-Cas9. On va expliquer aux auditeurs un peu de quoi il s'agit. En tout cas, ce qu'on peut dire déjà, c'est que votre première grande publication avec Jennifer Doudna remonte dans Science à 2012. Et depuis, donc en très peu de temps, tout le monde a adopté ce que vous appelez vous-même votre couteau suisse. Est-ce que vous avez le sentiment de vivre en ce moment dans un véritable tourbillon scientifique ?
Oui, en effet, puisque la technologie est utilisée par les laboratoires du monde entier pour la recherche et le développement dans différents domaines de biologie, de biotechnologie et de médecine. Donc, en effet, oui, c'est un tourbillon scientifique.
Vous le vivez vous-même aussi intrinsèquement, j'allais dire, ce tourbillon?
Ah oui, bien sûr, oui. Ouais. je le fais intrinsèquement, comme un tourbillon scientifique.
C'est-à-dire, comment ça se traduit?
C'est ça que ma vie a un petit peu changé. Je suis très sollicitée. Et puis, le plaisir de voir une communauté scientifique qui reconnaît la découverte de recherche fondamentale qui est derrière cette technologie et de voilà, l'appréciation de voir beaucoup de scientifiques du monde entier qui utilisent cette technologie et qui sont très, très intéressés par développer la technologie et qui permettent en fait de poser des, disons, de répondre à des questions que certains chercheurs n'osaient plus poser. C'est-à-dire que, voilà, ça apporte un autre domaine dans la boîte à outils qui existait déjà en biologie moléculaire.
Il y a une vraie relance, en tout cas, dans ce domaine qui est absolument phénoménal, avec un temps très court, on le voit, entre le moment de la publication, les premiers papiers, la recherche fondamentale et déjà les applications très perceptibles.
Exactement.
Ouais, c'est rare en science d'avoir ce tempo très court.
Je pense que c'est très rare. Ouais. Et je pense que c'est vraiment dû, peut-être qu'on nous allons en parler par la suite, mais c'est vraiment dû à ce mécanisme bactérien qui est en fait très subtil mais très simple et qui voilà qui peut être exploité de façon très versatile et qui a démontré être très facile à utiliser, très facile à designer, très 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 versatile, très peu cher et très efficace.
Oui, beaucoup d'avantages. Quelques questions éthiques aussi, on l'évoquera avec vous, autour donc de cette découverte CRISPR-Cas9. On va revenir sur votre parcours hors du commun et vous allez donc nous expliquer comment fonctionne ce couteau suisse pour modifier le génome des cellules animales d'ailleurs ou végétales. Emmanuelle Charpentier, vous êtes l'invité aujourd'hui de la tête au carré. Quand on parle d'art rupestre, on pense souvent aux mains négatives, ces traces de mains humaines faites au pochoir dans les grottes préhistoriques. Une récente découverte sur un site égyptien révèle que la technique a été utilisée pour des pattes de reptiles. Et c'est du coup la une de la science, Catherine de Coppet.
Oui, le site de Wadi Soura 2 a été découvert en 2002 dans un coin reculé du sud-ouest de l'Égypte, à la frontière de la Libye et du Soudan. Et cette grotte ornée, qui présente un nombre très important de peintures datant de 8000 ans, est connue notamment pour ses 900 traces de mains que jusqu'ici on croyait humaines, mais on va voir que la réalité est un peu différente, Mathieu.
Bonjour Emmanuelle Honoré.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis Cambridge. Vous êtes chercheur au sein de l'université. Vous êtes archéologue dans l'équipe ethnologie préhistorique du CNRS. En quoi cette découverte est-elle une première 13 traces concernées, hein, c'est ça ?
Exactement. On a 13 petites mains qu'on a identifiées comme étant non pas celles d'enfants et de bébés humains comme on le croyait précédemment, mais comme celles de reptiles. Et c'est la première fois que des empreintes de reptiles sont mises en évidence dans la rupestre préhistorique mondiale. C'est aussi les premières empreintes de mains pentadactyles, donc à 5 doigts non humaines identifiées dans l'art préhistorique. Donc c'est en ça que c'est quelque chose de tout à fait inédit.
Emmanuel Honoré, il faut se figurer un petit peu le tableau. C'est, on a deux petites mains qu'on voit à l'intérieur de mains qui, elles, sont des mains d'adultes. Alors vous, vous êtes allé sur place. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivé jusqu'à cette découverte? Parce que jusqu'ici, on pensait que ces petites mains étaient donc des empreintes de mains de bébé, mais vous, vous ne l'avez pas cru, c'est cela?
C'est ça, le point de départ de cette recherche, c'est lorsque je suis allée pour la première fois sur le site en 2006, j'ai eu une sorte de choc visuel, une intuition. Mes collègues étaient tous absorbés par les grandes peintures de cet abri, qui en compte environ 8000 au total. Donc vous êtes submergés par la foule d'images, et notamment par des grandes scènes, des bêtes fantastiques qu'on a appelées les bêtes sans tête. Et contrairement à eux, moi j'étais attirée par le détail, par 13 petites mains, ces petites mains qu'on disait être celles de bébés ou d'enfants humains.
Elles sont très peu larges, hein, c'est ça qu'il faut expliquer. Hein. Elles font 4 cm de large seulement.
Exactement, c'est vraiment des toutes petites mains, donc 45,3 mm, ça fait 4,5 cm de la base de la paume à l'extrémité du troisième doigt, le plus grand doigt. Donc c'est vraiment un point de détail dans cet abri, mais ça m'a tout de suite interpellée. Je me suis dit, les dimensions, la morphologie de ces mains avec ses doigts fins, allongés, pointus, ça m'évoquait pas des mains humaines. Je me suis dit, il y a quelque chose à creuser dans ce petit détail qui pourrait peut-être être la chose la plus importante de cet abri finalement.
Emmanuel Honoré, comment vous avez procédé? Vous êtes archéologue et alors là vous êtes allé mesurer des mains d'enfants bien vivants, c'est ça?
Tout à fait. Alors, ce qui est fabuleux dans la discipline de l'archéologie, c'est qu'on est amené à faire un petit peu tout dans notre carrière. Donc, discipline qui dialogue avec toutes les autres. Au départ, je me suis dit, cette idée est folle, il faut que je la laisse dans un coin de ma tête. Mais rapidement, j'étais hantée par le fait qu'il fallait la tester. Donc, j'ai commencé très modestement en mesurant les mains d'enfants et de bébés dans mon entourage, de l'âge de 2 mois à 8 ans, pour avoir un panel assez large. Et la conclusion est arrivée assez rapidement que toutes ces mains étaient plus grandes que les mains de Wadisoura 2 et surtout que les proportions étaient vraiment très différentes.
Et ensuite, alors, vous êtes allé voir pour le coup des spécialistes de prénatologie à Lille, c'est ça?
Exactement. Avec ces premiers résultats, je me suis dit il est temps de réunir une équipe de spécialistes, donc des spécialistes en néonatologie avec Tamer Agza et le professeur Philippe de Ruel, deux grands chercheurs en néonatologie, mais ce sont aussi des praticiens qui sont responsables de services au CHRU de Lille, qui a la plus grande maternité de France. Donc on avait là accès à un échantillonnage de bébés prématurés à la naissance et de bébés nés à terme. On a sélectionné des critères de mesure les plus pertinents, on a élaboré le protocole et on a pu faire une étude de morphologie comparée entre ces mains de bébés prématurés et à terme et les mains de soufflées sur la paroi de Wadisoura 2.
Et donc la conclusion était sans appel, il ne s'agissait pas de mains humaines, pas de mains de bébés, donc ensuite il a fallu trouver à qui appartenaient ces empreintes.
Exactement, le mystère finalement ne faisait que s'épaissir avec ces premiers résultats, à qui appartiennent ces mains. Et là, ça devenait vraiment, vraiment très excitant comme partie de la recherche. J'ai eu au début l'idée que ça pouvait être des mains de primates non humains, donc des singes, des petits singes. Et j'ai eu le plaisir de contacter le professeur Brigitte Senu, qui est paléoanthropologue et primatologue au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Et elle a été aussi embarquée, fascinée dans cette enquête. Et on a fait aussi appel à Emmanuel Pouillebac, qui est spécialiste de la morphologie fonctionnelle de la main chez les crapauds, dans la même institution. Et on a commencé à explorer toutes les hypothèses parmi les espèces à 5 doigts.
Alors par déduction, vous êtes finalement arrivé au fait que ça ne pouvait être que des reptiles, en l'occurrence des varans, qui sont des sortes de crocodiles, hein, c'est ça la conclusion. Alors comment comprendre que les hommes ont orné cette grotte avec des animaux? C'est incroyable cette découverte.
C'est complètement inédit et ça nous pousse dans des réflexions qu'on n'a pas eues auparavant, alors que le thème de la main soufflée, vous l'avez dit, les mains négatives, c'est un peu l'image d'Épinal de la préhistoire. Donc on croit que tout a été dit. On se rend compte qu'il faut encore un territoire nouveau. Et ce qui est peut-être le plus significatif à Wadisoura 2, ce n'est peut-être pas forcément finalement l'identification qui est incroyable, mais la disposition de ces petites mains, parce qu'elles ne sont pas soufflées au hasard sur la paroi comme si c'était une simple expérience, mais elles sont disposées en frise, en réponse aux frises de mains humaines, ou directement, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, dans les mains humaines. On a l'exemple fascinant d'une paire de mains de varan dans une paire de mains d'adultes. Et c'est une véritable mise en scène qui instaure un dialogue visuel, voire sémantique peut-être, entre la main de l'homme et celle de l'animal. Donc c'est des territoires tout à fait nouveaux. Et pour comprendre l'importance de cette disposition, il faut vous dire qu'on est dans un contexte archéologique. Il y a environ 8 ans, il n'y a pas encore d'attestation de domestication animale dans la région. Et pourtant, ce que ces mains nous disent, c'est que le rapport de l'homme à l'animal, ce n'est pas seulement celui du chasseur à la proie qu'on a souvent comme image des derniers chasseurs-cueilleurs. Là, il y a un parallélisme, une proximité, peut-être même une intimité entre l'homme et l'animal, et ça nous fait entrer par la grande porte dans l'univers symbolique de ces chasseurs-cueilleurs.
Emmanuel Honoré, très rapidement, ces varans, ces pattes de varan étaient celles de varan morts, hein, c'est ça?
Alors là, c'est une partie de la recherche qui est encore en cours, donc c'est aussi très excitant. D'après les conclusions qu'on a pu avoir avec Emmanuel Puy-de-Bas, on est vraiment sur des mains articulées et cohérentes du point de vue de la morphologie fonctionnelle. Mmh. Donc des mains véritables, pas des maquettes, pas des reproductions. Aussi probablement des mains malléable, on va dire pas sèche, puisque la position des doigts varie légèrement d'une empreinte à une autre. Mmh. Mais d'après les indices que je suis en train de relever sur les macro-photos que j'ai pu faire des peintures, on a quelques pistes pour dire que ces mains étaient coupées. Donc des mains coupées, mais encore fraîches, donc des mains peut-être récemment coupées.
Enquête à suivre. Merci beaucoup Emmanuel Honoré pour cette découverte importante dans le monde de l'archéologie des grottes ornées. Et ça s'est passé au sud-ouest de l'Égypte. Merci Catherine de Copé.
Merci, à demain.
À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, 3337 mètres, c'est le point culminant des chaînes de montagnes qui ont été identifiées à la surface de Titan, le plus gros satellite de Saturne. Observation permise grâce à la sonde Cassini de la NASA, qui intrigue d'ailleurs les scientifiques. Titan ne présente en effet aucune activité tectonique généralement en cause dans la formation des montagnes. L'hypothèse avancée pour expliquer la présence de ces sommets concerne l'effet de l'attraction de marée exercée par Saturne. En raison de son orbite en forme d'ellipse, la planète ferait subir à son satellite des variations de l'attraction gravitationnelle qui déformerait ainsi sa surface. Le démantèlement des centrales nucléaires en fin de vie pourrait coûter très cher, c'est ce qu'annonce la Commission européenne. La Commission chiffre à 250 milliards d'euros le budget nécessaire pour fermer les centrales vieillissantes de l'Union européenne d'ici 2050, somme astronomique qui inclut le démantèlement à proprement parler, mais également la gestion des déchets nucléaires. Si les opérateurs ont anticipé ces coûts en réservant environ 50% des fonds nécessaires, la situation pourrait s'avérer plus problématique en cas de prolongation de la durée de vie admise des centrales. Et puis enfin, le mégalodon aurait disparu sous l'effet d'une trop grande concurrence. Ce requin géant apparu il y a 28 millions d'années sur notre Terre ne se serait pas éteint en raison d'un changement climatique comme on le croyait jusqu'ici. Des chercheurs de Zurich viennent de démontrer que la disparition du mégalodon il y a 2,5 millions d'années tiendrait plutôt à l'arrivée d'espèces concurrentes trop nombreuses, conjuguées à la raréfaction des proies disponibles. Rappelons quand même que l'animal, long de 20 mètres et possédant une gueule de 3 mètres, mâchoire ouverte, constitue l'apex prédateur de l'ère cénozoïque. Aucun autre animal n'était au-dessus de lui dans la chaîne alimentaire. Allez, Emmanuel Charpentier, notre invité dans un instant. Voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be in 5. Huh. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious, it's yours, it's mine, only one at a time. My life, my life, yeah. Am I wrong to assume if she can't dance, then she can't ooh, yeah. Am I wrong to say if she can't dance, then she can't ooh? Hey, I never wanna waste your time. My life, so precious, is yours, is mine. And look at the time, my God, so precious, is yours,
is mine, only one at a time. So precious is yours, is mine, only one at a time. My life, my life.
Anderson .Paak sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
La femme que nous recevons aujourd'hui fait partie des scientifiques les plus influentes sur la planète internationale. Son domaine, c'est la modification des génomes par le biais d'un mécanisme appelé CRISPR-Cas9. Elle a déjà été couverte de prix avec sa boîte à outils, qui pourrait bien lui valoir d'ailleurs un prix Nobel. Tout le monde lui prédit déjà maintenant. Nous en profitons donc de l'un de ses rares passages en France pour un entretien inédit dans la tête au carré. Emmanuel Charpentier, merci beaucoup d'être avec nous.
Je vous remercie.
La France, c'est un pays que vous visitez quand même de temps en temps. Ça fait 20 ans que vous êtes partie.
Ça fait 20 ans, ça va faire 20 ans en octobre que je suis partie de la France et je visite la France 2 à 3 fois par an, en fait. Pas autant que je le voudrais.
Et parler de vos recherches en français, ça vous demande un véritable effort aujourd'hui ?
Oui, ça me demande un effort puisque ça fait pratiquement 20 ans que je n'explique jamais ma recherche en français.
C'est ça. Il y a quelques jours, vous avez reçu le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science 2016. Est-ce que vous avez assez de cheminées chez vous pour poser tous les prix qu'on vous décerne depuis quelques années ?
Oui, en fait, je suis assez terrée, c'est-à-dire que j'aime bien les espaces assez neutres et assez blancs et assez minimales.
Ah bon ? Alors vous les mettez où ?
Eh bien, pour l'instant, ils sont dans les cartons, parce qu'il y a pas mal de cartons que je n'ai pas déballés. Je suis arrivée à Berlin il y a un peu plus de 2 mois, bientôt 3 mois. Mais je pense que certains resteront dans les cartons, oui.
Ah bon ?
Mais l'idée, c'est en fait d'avoir toujours du blanc pour, se donner une perspective de nouvelles découvertes. C'est-à-dire que si je mets tous mes prix, comme beaucoup d'Américains ont leur bureau avec plein de prix partout, moi, je pense que je serais un petit peu... ça me conviendrait pas. C'est-à-dire j'ai besoin de...
C'est bon pour votre esprit, c'est bon pour votre créativité d'avoir ces murs blancs, alors ?
Oui. Enfin, les murs blancs sont pas toujours blancs, en tout cas, en l'occurrence, j'ai des grandes fenêtres. Je pense avoir des prix partout, ce serait un petit peu déstabilisant de se dire, je suis assez jeune en tant que scientifique. Les scientifiques sont toujours jeunes, je pense, même quand ils prennent leur retraite.
Ouais.
Mais j'ai une optique de vouloir découvrir d'autres mécanismes intéressants qui pourraient être exploités de façon intéressante. Je pense pas que ce sera possible de trouver quelque chose comme CRISPR-Cas9, mais j'ai besoin de créativité et j'aurais l'impression de me mettre dans un dans un système où voilà, je vois tous mes prix et je me dis voilà, ça y est, c'est terminé.
Vous n'aimez pas figer les choses parce que visiblement, vous êtes animé encore d'une belle énergie. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Parmi les nombreux prix que vous avez reçus, c'était en 2014, récompensé par une fondation américaine de la Silicon Valley.
C'était il y a quelques mois en Californie. Grand show à l'américaine pour la remise d'un prix international prestigieux.
Ladies and gentlemen, Cameron Diaz and Dick Costolo.
L'actrice Cameron Diaz et le PDG de Twitter viennent récompenser deux femmes, mais il n'est pas question de show business, elles sont microbiologistes.
Les deux femmes que nous allons récompenser ont réussi à comprendre comment éditer notre code génétique.
Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna.
La blonde est américaine, la brune française. Ensemble, ces deux chercheuses ont révolutionné le monde de la génétique. Ce jour-là, elles remportent le prix scientifique le plus généreux du monde, 3 millions de dollars.
C'est assez surréaliste de recevoir ce prix des mains de Cameron Diaz. Nous sommes trois femmes puissantes et je me demandais, c'est vous Charlie ?
Vous êtes une femme puissante, Emmanuel Charpentier, aujourd'hui ? Vous le dites en tout cas.
Non, ça c'était une... C'était pour détendre l'atmosphère.
Mais quand même.
Non, ce qui est puissant, c'est la technologie. Donc ce qui est puissant, je pense que c'est plus le chemin de découvrir différents mécanismes et de se rendre compte que oui, on a la possibilité en tant que chercheur de pouvoir découvrir un mécanisme qui peut avoir une implication qui est très puissante. Mais voilà, derrière il y a une équipe. Je reste un scientifique comme tous mes collègues qui sont aussi puissants que moi. Au jour le jour, j'ai une équipe, j'ai les problèmes de gérer une équipe, le financement comme
les chercheurs français.
Comme les chercheurs français.
On en parle souvent ici.
Qui sont extraordinaires, comme beaucoup de chercheurs dans le monde. Donc je pense que ce qui est puissant, c'est la technologie. Et après, bien sûr, il y a la répercussion, puisque c'est une technologie puissante. Donc,
avec des applications possibles dont on va parler avec vous. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux aujourd'hui, finalement ? C'est ça, précisément ? C'est de sentir que vous faites avancer le monde, d'une certaine manière, grâce à cette technique ?
Non, c'est une satisfaction d'avoir eu un chemin de recherche un petit peu pas forcément tracé, et d'avoir réussi à trouver un mécanisme intéressant et de voir en effet que la communauté scientifique peut l'utiliser et peut le développer pour de nombreuses applications. J'ai commencé la recherche fondamentale en me posant des questions sur comment les bactéries fonctionnent, comment les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Donc j'avais un intérêt à faire de la recherche fondamentale, mais dans une orientation médicale et néanmoins appliquer et c'est un challenge. On ne sait jamais si on trouvera quelque chose d'intéressant qui pourra avoir une application importante. Et CRISPR-Cas9 est un cadeau.
Est-ce que c'est une nouvelle façon aussi de faire la science aujourd'hui, c'est-à-dire être des deux côtés au fond dans le fondamental avec toujours cette vision des applications? Parce que souvent les chercheurs nous disent, moi je fais de la recherche fondamentale, ça m'intéresse pas. En tout cas, je ne cherche pas forcément l'application directe.
Non, moi je fais vraiment de la recherche fondamentale pour la recherche fondamentale, mais en ayant toujours un œil sur une possible application. Mais ça arrive quand vous commencez à découvrir un mécanisme, vous comprenez que le mécanisme, peut amener à des applications. Mais il est vrai que l'intérêt, c'est vraiment de comprendre comment les cellules fonctionnent, que ce soit les cellules bactériennes et comment les bactéries réagissent, aussi à l'hôte humain. Donc c'est vraiment le focus de mon laboratoire. Donc on regarde vraiment les mécanismes très précis, moléculaires et cellulaires. Et on veut vraiment comprendre comment les choses fonctionnent. Et on sait très bien qu'on peut trouver des mécanismes qui peuvent être exploités comme des cibles pour des nouvelles thérapeutiques. Donc c'est toujours avoir un petit peu un lien. Mais c'est vrai que le but principal, c'est la recherche fondamentale.
Ouais. Alors il y a ce nom un peu barbare, CRISPR-Cas9. Lorsque vous devez expliquer à des enfants ou à des adultes néophytes, comme la plupart d'entre nous, la nature de votre découverte, quels sont les mots que vous utilisez ? Alors, comment on résume ça au fond ?
Comment on résume ça ? Donc, il y a d'abord le système naturel, CRISPR-Cas9. Donc, nous pouvons être attaqués par des bactéries et du virus, qui sont des pathogènes qui peuvent causer des maladies. Et nous avons développé un système immunitaire qui nous permet de nous défendre contre les bactéries et les virus.
Ça, c'est quand tout va bien.
Et les bactéries peuvent aussi être attaquées par leur propre virus, qui sont appelés bactériophages phages. Et comme tout organisme, elles ont développé des moyens pour pouvoir se défendre contre les attaques des virus. Ils utilisent en fait plusieurs systèmes, et un système est CRISPR-Cas, qui en fait a été développé en plusieurs mécanismes bactériens. Et le CRISPR-Cas système peut reconnaître le génome du virus qui va infecter la bactérie et découper le génome du virus. Mmh. Et la conséquence, c'est que le virus ne va plus pouvoir se répliquer et le virus ne va plus pouvoir tuer la bactérie. Donc c'est la façon dont la bactérie peut résister l'infection par les virus. Mais c'est un des mécanismes, et le mécanisme CRISPR-Cas est un mécanisme très versatile. C'est-à-dire que le système a évolué en différents mécanismes, et CRISPR-Cas 9 est le mécanisme le plus minimal de tous les mécanismes CRISPR-Cas qui existent.
Ouais, et ça en fait un avantage ?
Ça en fait un avantage dans son exploitation, en effet.
Ouais, et pourquoi ?
Pourquoi ?
Parce qu'il est très simple, justement, il va directement
simple.
Droit au but.
Il est très simple, c'est-à-dire que la plupart des mécanismes CRISPR-Cas consistent en un complexe de protéines qui va être guidé par une molécule d'ARN qui contient le code de l'ADN à cibler, et une protéine de ce complexe va cibler l'ADN et le découper. Mmh. Et le système CRISPR-Cas9 est complètement différent, et c'est ce qu'on avait montré dans un papier qui est vraiment le papier fondateur qui a été publié dans Nature en 2011. Ce système comprend deux molécules d'ADN et une protéine. Donc il y a qu'une protéine qui va découper l'ADN et qui est guidée par deux molécules d'ARN qui forment un duplex. Et donc, c'est une exploitation très facile dans le sens où c'est simplement simplifier un système à trois composants en un système à deux composants où il y a une protéine qui va être guidée par une molécule d'ARN qui a le code de l'ADN à cibler, et la protéine va découper l'ADN et ensuite la cellule va faire le reste en tant que technologie.
Et puisque c'est si simple, alors pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps au fond à mettre au point ce dispositif?
Le dispositif a été très rapide à mettre en place. Peut-être pas pour les bactéries au niveau évolutif, ouais. Mais lorsqu'on a pu comprendre comment le système fonctionnait, les composants du système, donc ça c'était le papier qui a été publié dans Nature en 2011, et ensuite de prouver ce que je voulais montrer, c'est qu'en effet, ces trois composants sont les composants qui vont cibler l'ADN, et ça a été publié en 2012 avec le groupe de Jennifer Doudna.
Dans
Science. L'idée, c'était à ce niveau-là de pouvoir simplifier le système et de montrer, voilà, vous pouvez utiliser ce système et l'exploiter en outil génétique qui permettra de cibler n'importe quelle séquence d'ADN dans n'importe quelle cellule et organisme. Ouais. Et l'idée, ce sera de designer cette molécule d'ARN qui contient le code de l'ADN à cibler et de le complexer avec la protéine qui va cibler l'ADN et d'utiliser cet outil pour cibler l'ADN. Mmh. Et cet outil depuis a été développé en différentes sortes d'outils pour aussi étudier l'expression des gènes, donc pas uniquement manipuler, bricoler les gènes, c'est-à-dire éliminer une certaine séquence de gènes ou remplacer des gènes, mais aussi marquer les gènes, regarder toutes étudier les phénomènes d'épigénétique ou de vraiment étudier l'expression des gènes et de développer des systèmes de criblage qui permettent de détecter des nouvelles cibles.
C'est une révolution dans le domaine de la thérapeutique, une telle invention ?
Oh, c'est une des révolutions. Il faut comprendre que la génétique a évolué en différents types de révolutions. Il y avait d'abord la découverte que l'ADN était en fait la molécule porteuse du code génétique. Ensuite, la compréhension du code génétique. Ensuite, l'identification d'enzymes qui en fait proviennent des bactéries et qui permettent de découper l'ADN, comme les enzymes de restriction qui ont permis de cloner l'ADN, de séquencer l'ADN, c'est-à-dire de comprendre le texte de l'ADN, d'amplifier l'ADN. Il y a aussi beaucoup d'enzymes qui ont permis de faire ce que CRISPR-Cas9 font, donc c'est les enzymes à doigt de zinc et les talènes nucléases qui permettent en fait vraiment de cibler de façon spécifique un gène. Mais CRISPR-Cas9 apporte une autre dimension dans sa simplicité et dans le fait que c'est très peu cher à utiliser, c'est facile à utiliser et ça apporte beaucoup, beaucoup d'options en fait. Mais le challenge est aussi toute la technologie qui permet d'apporter cet outil CRISPR-Cas9 à l'ADN de la cellule d'intérêt. Donc on a besoin d'apporter ce système. Et il y a des technologies qui sont en cours de développement. Donc il y a beaucoup de développement en cours.
adieu, adieu, adieu. Comment ils sont si chers que je vous préfère mystérieux. Écrivons-nous pendant la guerre des lettres de feu. Et s'il n'y a pas de guerre, je vous en prie, Gilbert, trouvez une bataille au mieux. Adieu, Gilbert de Clare. Adieu, adieu, adieu. Comment me sont si chers que je vous préfère mystérieux. Écrivons-nous pendant la guerre des lettres de feu. Et s'il n'y a pas de guerre, je vous en prie, Gilbert, trouvez une bataille au mieux. Adieu, Gilbert de Clare. Adieu, adieu, adieu. Comment me sont si chers que je vous préfère.
Mansfield's Tia avec Gilbert de Clare dans La Tête au Carré. Notre invité, donc, la biologiste moléculaire Emmanuel Charpentier, pour nous parler donc de sa boîte à outils CRISPR-Cas9. C'est vraiment la façon le plus simple de le dire. On a compris tout à l'heure que c'était un peu plus complexe quand même. Il y a cette idée aussi de paire de ciseaux, hein, pour découper l'ADN. Vous êtes d'accord avec cette image?
Oui, oui, paire de ciseaux, c'est une très bonne image, parce que c'est le système fonctionne vraiment comme des ciseaux, une lame qui coupe un brin d'ADN, c'est l'autre lame qui coupe l'autre brin d'ADN.
Tout ça à l'échelle moléculaire.
Tout ça à l'échelle moléculaire et un ciseau qui peut être un petit peu transformé en des ciseaux alternatifs.
Ouais. Vous auriez pu être sur les planches et nous parler de danse à ce micro, Emmanuel Charpentier, plutôt que de biologie moléculaire, non? Vous venez du milieu de la danse?
Oui, ça je pense que c'est peut-être une idée. Non, j'ai fait de la danse lorsque j'étais jeune, mais au niveau très, très amateur.
Ouais, mais l'histoire
et du piano classique aussi, mais très amateur.
Et l'histoire dit qu'à l'âge de 12 ans, vous rêviez déjà d'entrer à l'Institut Pasteur. C'est quoi? C'est la légende, ça?
Ce n'est pas la légende.
Comment une jeune fille de 12 ans a envie de rentrer à l'Institut Pasteur?
C'est ma maman qui m'a rappelé les dernières années.
Mais
que,
oui.
Enfin, surtout au moment où, en fait, j'avais choisi mon stage de master, qui était en fait à l'Institut Pasteur, la réponse a été mais...
Souviens-toi, lorsque tu avais 12 ans, tu
t'es revenu de l'école et tu m'as dit un jour je travaillerai à l'Institut Pasteur.
D'accord. Bon, donc vous avez eu besoin qu'on vous le rappelle quand même. Donc vous n'étiez pas spécialement en train de rêver.
J'étais intéressée à être plus dans le système universitaire. En fait, ça c'est une nation que j'avais développée assez jeune. Et d'être dans le système de connaissances, en fait, de connaissances et d'enseignement, de connaissances, et c'était plus la partie qui m'intéressait le plus.
Ouais. Il y a des scientifiques dans votre famille ou pas?
Non. Ouais. Non, il n'y a pas de scientifique dans ma famille.
Et qu'est-ce qui vous a intéressé alors dans cette voie dont on dit toujours que justement elle est peu choisie par les filles, en tout cas dans le monde de la recherche en Europe, c'est 30% à peu près, hein, seulement de
filles. Il y a beaucoup de filles dans le domaine de la biologie. Maintenant, le problème est plus, et c'est, je pense, le but de la Fondation L'Oréal et UNESCO par ce prix, c'est de vraiment montrer qu'il y a un besoin d'essayer de comprendre pourquoi les jeunes femmes scientifiques finissent par quitter le recherche de le domaine de la recherche fondamentale. Donc ça, c'est vraiment une problématique qui nous concerne tous, surtout nous les chefs de laboratoire.
Ouais, qu'est-ce qui pose problème justement pour les jeunes femmes qui veulent s'engager dans ce type de
voie? Je pense que le milieu
alors
est devenu de plus en plus compétitif, le chemin est peut-être plus ardu, plus long. Il y a aussi probablement des systèmes dans certains pays qui n'ont pas forcément évolué au niveau de soutien pour la famille. Et puis, peut-être aussi un problème sociétal. Je pense que les jeunes, la jeune génération est très, très intéressée à l'heure actuelle à aussi garder une sorte de work-life balance, c'est-à-dire le travail et la vie, de ne pas avoir une vie qui est uniquement centrée sur le travail. Et peut-être aussi que nous ne sommes pas, nous devons, disons, développer des sortes de moyens pour pouvoir prouver aux jeunes que la recherche peut être un domaine totalement excitant et peut-être différent de ce qu'ils imaginent.
Et
en
des
fait,
stéréotypes.
Parce que c'est vraiment très multidisciplinaire. On se retrouve un peu vraiment à la tête d'une équipe. On est complètement responsable du financement de l'équipe. On est responsable du succès de nos étudiants et de nos chercheurs. On est responsable de faire avancer la recherche. On porte plusieurs casquettes et on voyage beaucoup. Donc ça peut être vraiment très, très excitant. On n'est pas du tout peut-être comme certains puissent le penser dans
en blouse blanche derrière.
Voilà. On l'est, mais enfin moins ouais, maintenant.
C'est vrai.
Je passe beaucoup de temps dans mon bureau, bien sûr, parce que je fais aussi de la science, mais il est vrai que c'est très multidisciplinaire, très vivant. On rencontre, c'est très international. Mon équipe est très internationale, très jeune, donc c'est très agréable.
Quelles sont les conditions pour qu'un scientifique justement puisse réussir et faire de grandes découvertes alors? Quel est l'environnement idéal au fond?
L'environnement, c'est beaucoup d'interactions avec des collègues, c'est-à-dire que on a besoin d'un temps de solitude, mais on a aussi besoin de beaucoup d'interactions puisqu'on dépend beaucoup d'une équipe et aussi d'interactions avec des collègues qui nous apportent des connaissances ou des spécialités qu'on peut ne pas avoir. On a besoin d'une infrastructure qui est aussi stimulante. On a besoin de beaucoup de moyens financiers et de temps.
Ouais.
C'est-à-dire que les fondations qui et les systèmes gouvernementaux qui apportent des fonds donnent aussi le temps au projet, puisque certains projets peuvent tout d'un coup se développer très rapidement, mais à la suite de plusieurs années de
ça, c'est le temps de la recherche fondamentale, voilà. Précisément.
Voilà.
Ouais.
Voilà.
Il faut savoir être un bon businessman aussi aujourd'hui dans ce paysage scientifique.
Oui, il faut savoir en effet écrire des projets qui sont attractifs pour récupérer des fonds financiers. Il faut savoir gérer ces fonds financiers, puisque l'idée c'est de maintenir le niveau financier d'un laboratoire. Il faut savoir utiliser l'argent, il faut savoir économiser l'argent, il faut savoir demander de l'argent pour ne jamais être en perte d'argent et développer son équipe. Donc c'est
dans les mentalités françaises aujourd'hui de faire du business dans la science ou...
Ah mais je pense que c'est dans les mentalités de tout le monde. Maintenant, il y a business et business. Et on passe beaucoup de temps à ça, probablement trop de temps à ça, puisqu'on est constamment à justifier les recherches que l'on veut poursuivre. Et mes collègues français, comme beaucoup de collègues, passent beaucoup de temps pour chercher des financements. Et en fait, ils sont très créatifs. J'étais dans des comités d'expertise pour des financements français. Et en tant qu'expert de comité, c'est toujours difficile parce qu'on voit des projets très intéressants avec des idées excessivement innovatrices, surtout en France. Et pas assez d'argent pour pouvoir donner des financements à ces projets. Donc c'est toujours très difficile. C'est la partie peut-être la plus difficile de ce métier.
Modifier donc les gènes à volonté, c'est ce qu'on attend donc de CRISPR-Cas9, avec aussi des questions éthiques qui se posent. C'était le cas dans un reportage de France 2 en mars, donc il y a quelques jours, autour de cette révolution biologique qui divise.
Tous les labos travaillent sur cette technique et les premiers résultats, on les voit notamment sur les animaux. Vous allez voir, je vais vous montrer des chiens lévriers. Ils vont apparaître ici. Eh bien, à gauche, vous allez avoir la version classique du lévrier et à droite, la version modifiée pour avoir beaucoup, beaucoup plus de muscles. Vous allez voir un autre exemple avec ces vaches laitières. Eh bien, elles n'auront jamais de cornes. Leur génome a été modifié pour éviter qu'elles se blessent tout simplement dans l'étable. Ces souris qui apparaissent ici, elles avaient une maladie du foie incurable. Eh bien, une équipe américaine a réussi à les guérir grâce à CRISPR, des souris adultes. Ce moustique, il y a quelques mois, une équipe américaine a réussi à le rendre résistant au paludisme, c'est-à-dire qu'il ne transmet plus le parasite à l'homme. On pourrait donc peut-être éradiquer le paludisme dans les prochaines années.
Emmanuel Charpentier, les promesses de CRISPR-Cas9, c'est par exemple effectivement d'éradiquer une maladie comme le paludisme, qui fait des centaines de milliers de morts par an?
Les promesses sont d'abord d'utiliser vraiment la technologie dans la recherche et le développement. Et ça, c'est une promesse qui peut être tenue, puisque c'est vraiment la base et le purpose, le but de cet outil. C'est vraiment de comprendre les mécanismes de la vie et de comprendre la fonction des gènes. Sachant que de comprendre la fonction des gènes permet de développer de nouvelles cibles pour des nouvelles thérapeutiques.
Mmh. On est dans la connaissance
et on est dans l'application recherche et développement.
Ouais.
Maintenant, une application qui me tient à cœur, puisque c'était une application que j'avais anticipée, en tout cas au moment où mon équipe a compris qu'il y avait trois composants dans ce système, c'est de pouvoir utiliser la technologie en dehors de son aspect naturel qui est de cibler des gènes chez la bactérie, c'est de pouvoir utiliser en effet cet outil pour cibler des gènes dans les cellules animales de plantes et pour faire du bricolage d'ADN
dans les cellules animales de plantes
et de plantes. Et donc ça c'est le système bricolage d'ADN dans les cellules eucaryotes et puis aussi de pouvoir voir la technologie se développer possiblement dans le traitement de maladies génétiques humaines plus directement comme d'autres technologies Talon et enzymes à doigt de zinc ont commencé aussi à être développés dans cette direction il y a quelques années.
C'est ça. Alors là, on a entendu les chiens. Je crois que ça fonctionne sur les primates. Maintenant, sur les souris, sur les moustiques et alors l'humain. Parce qu'évidemment, toutes les promesses sont autour de l'homme. On a déjà franchi cette étape ou pas?
Non, il y a des essais cliniques en cours avec les technologies Talon et Zinfinger Nucleases. À ma connaissance, CRISPR-Cas9, pas encore. Donc il y a
Pourquoi ? On se heurte à quoi, là, finalement ?
Non, c'est simplement que ça prend du temps. Donc d'abord, il y a beaucoup de développement dernièrement pour vraiment améliorer la spécificité du système. Mm-hmm. Donc le système a été montré être très spécifique, c'est-à-dire cibler la séquence de gènes voulue dans certaines cellules, puisque le système aussi fonctionne de façon différente d'une cellule à une autre. Et aussi, ça dépend de la façon dont on l'apporte et la façon dont on l'exprime dans les cellules. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, c'est plus tout ce qui est technique de délivrance, je ne sais pas comment on dit en français, c'est d'apporter la technologie. Et ça se développe en ce moment. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'apporter le système dans le plus de cellules possible. Et il y a des résultats qui sont publiés de façon régulière. Et il y a des développements à prévoir.
Allez, d'autres applications, on les évoque ensemble dans un instant. Ce sera la dernière partie de cet entretien. Emmanuel Charpentier. Massive Attack à l'instant.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Comme la plupart des parents de leur époque, ils avaient décidé que leur prochain enfant viendrait au monde grâce à ce qui était devenu la méthode naturelle.
Les ovules qu'on vous a prélevés, Marie, ont été fécondés avec le sperme d'Antonio, votre mari. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec deux garçons sains et deux filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. Tout d'abord, nous pouvons choisir le sexe. Y avez-vous réfléchi ?
Oh, nous voudrions que Vincent ait un petit frère, vous voyez, pour jouer avec lui.
Bien sûr, ça va, Vincent ? Bien, vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tel que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce genre de choses.
Nous ne voulons pas qu'il ait des maladies, certes, mais...
Oui, nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard.
Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible ? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous. Vous pourriez concevoir de façon naturelle un millier de fois et ne jamais atteindre un tel résultat.
Voilà comment mon frère Anton vint au monde. Un fils que mon père considérait digne de son nom.
Extrait de Bienvenue à Gattaca, Emmanuel Charpentier. Alors, c'est pour illustrer un petit peu justement les questions éthiques qui se posent autour de ce bricolage de l'ADN avec CRISPR-Cas9. Est-ce qu'on pourrait un jour fabriquer des enfants sur mesure, par exemple, avec cette méthode ?
Bon, premièrement, la technologie n'en est pas là. Donc
si
ça, c'est quelque chose qui est important.
Si on se projette un peu dans l'avenir, est-ce qu'on pourrait...
Dans l'imaginaire, on peut toujours... On peut toujours imaginer beaucoup de choses. Non, je pense que la technologie n'en est pas encore là.
Ouais.
Et je pense que ce n'est pas absolument pas la question de ce n'est pas le but de l'utilisation de la technologie. La technologie a pour but d'être utilisée dans la recherche et développement et pour des applications à but biotechnologique et médical qui.
En tout cas, il y a des questions qui se posent justement sur l'apparition possible de mutations à d'autres endroits du génome.
Oui.
Alors ça, c'est une vraie question pour le coup, sur les dangers justement d'une telle technique. Comment on peut les éviter ?
Ah non, alors le système, justement, depuis 3 ans, il y a eu d'énormes efforts de la part de la communauté scientifique pour essayer de comprendre un peu mieux comment le système fonctionne et pour établir les règles de spécificité. Nous faisons aussi quelques expériences dans notre laboratoire dans cette direction au niveau biochimique pour comprendre les règles de spécificité de l'outil. Mais il y a eu pas mal de développement pour améliorer la spécificité de l'outil.
Ouais.
Et il y a des publications qui montrent que l'outil peut être vraiment spécifique. Donc ça dépend beaucoup de, ça dépend des cellules qui sont utilisées, mais ça dépend aussi de comment l'outil est conçu. Et la façon dont l'outil est exprimé, c'est-à-dire que l'outil est tellement efficace qu'il est important de ne pas avoir trop d'outils produits dans la cellule pour faire le travail. Très peu d'outils fonctionnent. Donc, si vous avez trop d'outils, l'outil commence à être perdu, à reconnaître des séquences d'ADN qu'il ne devrait pas reconnaître. Donc, il y a maintenant des moyens qui permettent d'arriver à une spécificité.
C'est ça. Mais même avec cette simplicité, l'outil ne reste pas infaillible quand même. Et on peut imaginer que dans l'activation, la désactivation d'un gène, on puisse induire certaines maladies.
Oui, mais cela n'est pas un problème dans tout ce qui est recherche et développement, puisqu'on peut vérifier la séquence du génome qui a été modifié et montrer que la modification a été faite à l'endroit précis que l'on veut modifier et non ailleurs. Donc il y a des techniques qui permettent de vérifier cela. Et si c'est à but médical, justement, c'est une étape qui sera inévitable, surtout dans la possibilité d'utiliser l'outil pour traiter des maladies génétiques humaines, où on combine la thérapie cellulaire avec la thérapie génique, c'est-à-dire que on collecte les cellules d'un patient qui est malade, on corrige les cellules au niveau de son génome. On peut vérifier que tout est parfait. Et il y a beaucoup de techniques qui permettent de sécuriser la biosafety et de réimplanter les cellules chez le patient. Donc il y a beaucoup de technologies qui permettent de vérifier tout cela.
Puisque vous parlez d'une véritable chirurgie, justement, Emmanuel Charpentier, vraiment à l'échelle des hommes et des pathologies, quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser justement cette chirurgie de précision de façon très courante ?
Alors écoutez, je ne suis pas médecin, mais j'interagis beaucoup avec des médecins et des développeurs qui espèrent voir les premiers essais cliniques dans certains traitements de maladies génétiques d'ici 2 à 3 ans.
Donc, ah oui, c'est très court.
Les essais cliniques dans certaines maladies du sang où les cellules sont assez... assez accessible.
Quel type de pathologie, par exemple, pourrait être concerné?
Sickle cell anémia, je ne sais pas comment on dit en français.
La leucémie, maladies du sang?
Oui, les maladies du sang, les maladies de l'œil. Donc, mais ce sont des espoirs. L'avenir nous le dira.
Il faut être prudent.
Je suis prudente. Moi, je suis toujours très prudente. Ouais. Toujours très prudente. Je suis toujours très précise, d'ailleurs. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai pu comprendre ce mécanisme aussi. Donc moi, je suis vraiment quelqu'un qui est très précautionneuse. Donc c'est important d'aller étape par étape. Là, la technologie se développe très rapidement. Il y a beaucoup d'espoir, et puis c'est important. On parle à des gens qui peuvent être aussi atteints d'une maladie. Je ne pense pas que ce serait
très honnête d'anticiper les choses trop vite.
Maintenant, je pense réellement qu'on peut voir des prochains essais cliniques d'ici quelques années, en espérant que la technologie puisse être développée. Mais voilà,
Est-ce que vous êtes étonné que finalement la société ne s'empare pas encore de ces questions éthiques autour toujours de CRISPR-Cas9, comme des débats ont eu lieu autour des OGM, parce qu'on est vraiment là aussi dans le bricolage du vivant, on est sur les mêmes problématiques
Ces questions éthiques existaient auparavant. L'idée de cloner, l'idée de manipuler des gènes n'est pas nouveau. Donc cette histoire de surhumain ou d'humain transformé n'est pas nouvelle. Maintenant, CRISPR-Cas9 est un outil qui est quand même très facile à utiliser, donc ça relance un peu le débat. Mais non, j'espère en fait que le public comprend les bons effets de la technologie et le but principal de la technologie. J'imagine que le public se pose aussi des questions.
Vous pensez qu'il sera intéressant d'organiser des débats de société, justement?
Je pense, oui, en effet. Alors, en ce moment, ce qui se passe, c'est que, bien sûr, différents pays ont différentes régulations au niveau éthique, et il y a des groupes de scientifiques qui maintenant se développent, alors au sein des académies ou scientifiques ou en dehors des académies scientifiques, pour essayer de comprendre bien ce que c'est CRISPR-Cas9. Ils travaillent en collaboration avec des personnes qui sont vraiment experts d'éthique pour vraiment comprendre ce qu'est CRISPR-Cas9, comprendre comment ça peut fonctionner, quelles sont les bonnes applications de CRISPR-Cas9, quelles sont les dérives. Et je pense que c'est important en effet que la société aussi soit impliquée.
Emmanuel Charpentier, le prix Nobel, vous en rêvez le matin en vous maquillant ou pas?
Je ne me suis jamais posé la question.
Tout le monde se la pose pour vous.
C'est très intéressant. Je suis très pragmatique. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la recherche et mon prochain but est vraiment de pouvoir continuer les projets qui ont un peu souffert dans mon laboratoire au cours des différents déménagements et à cause de mon implication assez particulière dans ce projet CRISPR-Cas9 qui m'a pris quand même beaucoup d'heures personnelles, puisque j'étais vraiment impliquée en tant que scientifique avec différents très jeunes chercheurs qui ont travaillé avec moi sur ce projet. Donc ce qui m'intéresse et ce qui me fait courir, c'est vraiment la possibilité de découvrir un autre mécanisme intéressant.
Mais vous ne laisseriez pas le prix Nobel dans vos cartons quand même si on vous le donnait?
Je ne sais pas sous quelle forme, en fait, le prix Nobel est donné.
Merci beaucoup, Emmanuel Charpentier. Vous étiez donc, il y a quelques jours, à Paris, à l'occasion de ce prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science 2016, et aujourd'hui avec nous dans La Tête au Carré. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.